La démence est devenue, fin 2022, la première cause de mortalité chez nous, ex aequo avec les pathologies coronariennes. La démence arrive donc devant les cancers et les maladies cardiovasculaires. Selon Science Sano, pratiquement un Belge sur 10 décède désormais en raison d'une dégénérescence cérébrale.
Et cela devrait empirer ces prochaines années, Olivier.
Selon l'Organisation mondiale de la santé et l'association Alzheimer Disease International, les cas explosent. Ils devraient tripler d'ici 2050 et toucher à échéance 152 millions de personnes dans le monde.
Mais qu'est-ce que la démence finalement, Olivier ?
Eh bien, la démence est un terme générique qui traduit une dégénérescence du cerveau. Le syndrome se manifeste par une altération des fonctions cognitives comme la mémoire, la mobilité ou l'équilibre. Cela est provoqué par le vieillissement des neurones de diverses régions du cerveau.
C'est ce qu'on appelle Alzheimer ou pas du tout ?
Eh bien, en fait, cette maladie d'Alzheimer est en effet la forme la plus commune de démence, mais il y en a d'autres. En tout, il y a 5 types de démence. De manière générale, la démence, peu importe le type, en fait, se caractérise par différents symptômes. Il y a les pertes de mémoire, les difficultés d'apprentissage, les troubles du langage, la confusion, les changements d'humeur et de personnalité, les mauvaises décisions, la difficulté à raisonner, la dépression et la perte d'intérêt pour certaines activités.
On a l'occasion d'en parler avec Katharina, Olivier, mais pour le moment, il n'existe pas de traitement.
Eh bien, c'est la tragédie de ces maladies. Il n'y a pas de traitement pour empêcher l'inévitable. La démence représente toujours une énigme pour les médecins et les chercheurs. Ce que la science a mis au jour, c'est qu'elle apparaît systématiquement suite à la destruction de cellules cérébrales, soit par un AVC ou un infarctus, par exemple. Là, je représente le facteur le plus décisif. Néanmoins, 9% des cas sont dits précoces. Le patient le plus jeune atteint de démence vient d'être diagnostiqué. Il s'agit d'un jeune homme de seulement 19 ans. Toutes ces informations que je viens de vous révéler figurent dans le dossier
boursier. Parce que c'est vrai qu'on a entendu Olivier nous expliquer la définition scientifique de la démence. Vous qui côtoyez parfois les gens atteints de cette maladie, comment pourriez-vous expliquer au grand public comment ça se matérialise? Comment est-ce qu'on pourrait leur faire comprendre ce que c'est réellement?
C'est justement ça qui est difficile, puisqu'il y a autant de conséquences de la maladie qu'il y a de personnes, puisque les atteintes du cerveau sont différentes d'une personne à l'autre, et donc les situations que vont vivre les familles vont être des situations très personnelles. Et c'est ça toute la difficulté de cette maladie, c'est qu'on ne peut pas indiquer aux personnes comment les choses vont évoluer, comment ça va se passer.
Vous voulez dire qu'il y a différents degrés, c'est ça, hein ?
Il y a différents degrés et l'évolution n'est pas non plus la même d'une personne à l'autre. Mmh. Et les comportements, les difficultés vont être aussi différentes d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont vivre longtemps très bien avec la maladie. Pour d'autres, la progression va être plus rapide. Alors ça dépend aussi du moment lors duquel ça a été diagnostiqué, puisque parfois on est finalement diagnostiqué assez tard de cette maladie, mais il n'y a pas une réponse unique, et c'est ça qui est difficile. Donc effectivement, il y a la partie scientifique, et puis il y a le vécu, et le quotidien avec une personne malade, et bien effectivement, il est différent d'une situation à l'autre, et enfin voilà, dans effectivement Moustique, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit les différents types de maladies qui ne donnent pas non plus les mêmes comportements et les mêmes difficultés. Pour les personnes malades.
Un dossier extrêmement complet dans Moustique, où évidemment on va parler de la maladie en tant que telle avec de véritables chercheurs, mais parler aussi de ce qui gravite autour, évidemment le poids pour ces familles qui doivent aussi finalement s'occuper de ces personnes qui sont atteintes de ces maladies-là. On va parler des traitements un petit peu plus tard aussi avec Katharina, mais avant ça, François Meyer, l'OMS distingue 3 phases dans la maladie pour tenter de comprendre justement ce degré de gravité dans ces maladies, notamment d'Alzheimer. Comment ça marche? À quoi ressemblent ces 3 phases, François Meyer?
Oui, effectivement, il y a plusieurs phases en fonction de la gravité des symptômes. La première phase, c'est une phase en fait qu'on appelle asymptomatique ou pré-symptomatique. C'est une phase où en fait la maladie est déjà là dans le cerveau, elle est déjà en train de faire son travail, mais il n'y a pas encore de symptômes qu'on peut percevoir à l'extérieur et la personne fonctionne tout à fait normalement. Et ça, cette phase, elle dure très longtemps et on pense qu'elle commence peut-être 20 ans avant l'apparition des premiers symptômes. Et puis on a des phases qu'on appelle les troubles cognitifs légers, c'est quand il commence à avoir des petits problèmes, des petits soucis, des petits oublis, des difficultés pour trouver les mots, ce genre de choses, mais qui n'entravent pas trop la personne au quotidien. La personne arrive à surpasser un peu ses difficultés et à fonctionner normalement. Et puis alors le stade de démence, c'est alors quand ces difficultés deviennent trop importantes pour fonctionner au quotidien et que vraiment la personne devient dépendante un peu de son entourage.
Nicolas Sehuy, avant de donner la parole à Olivier Boulin et Katharina Lothor, en 2050, le nombre de cas de démence devrait tripler. Alors qu'on l'a déjà dit, en Belgique, c'est la maladie la plus meurtrière. Comment l'expliquer d'abord, Nicolas Sehuy? Et puis, est-ce que vous avez été surpris de découvrir ça, vous, dans votre enquête?
Alors moi je suis un petit peu ces dossiers depuis un petit temps, donc ça m'a pas surpris ce chiffre-là en l'occurrence, mais effectivement ça s'explique très simplement par le vieillissement de la population. En fait, si on caricature un petit peu, il y a eu la décennie passée des progrès énormes pour soigner les maladies cardiovasculaires. Cette décennie-ci, on est en train d'accomplir des prouesses pour soigner les cancers, et ensuite il reste la démence, parce que si on survit à ces maladies-là, bah forcément on vit plus vieux, et à 65 ans on sait que la prévalence pour avoir Alzheimer ou une autre forme de démence, elle est d'à peu près 2-3%, et après elle double tous les 5 ans, donc on arrive à 85-90 ans.
Le premier facteur risque, c'est l'âge, hein, c'est
ça. Le premier facteur, effectivement, c'est l'âge, et donc oui, à 85-90 ans, on a une personne sur 3 à peu près qui est touchée par Alzheimer ou une autre forme de neurodégénérescence.
Et Francis Meyer, vous avez parlé d'oubli, de perte de mémoire, de difficulté à chercher ses mots. Mais pour nos téléspectateurs, et nos téléspectatrices qui nous regardent, est-ce que c'est aussi ces symptômes, c'est aussi le signe d'un vieillissement normal, ou est-ce qu'il faut s'inquiéter tout de suite?
Alors c'est là que la distinction est toujours difficile, parce qu'on sait qu'avec l'âge, ben, il y a forcément une perte des fonctions cognitives qui est naturelle. Donc, c'est-à-dire qu'avec naturellement, avec l'âge, on retient un peu moins bien, la mémoire du par cœur devient plus difficile, et la concentration est parfois un peu plus difficile. C'est plus difficile d'apprendre une langue, même déjà à 50 ans, que lorsqu'on a 16 ans. Donc c'est un vieillissement qui est normal. Maintenant, la distinction se fait surtout que dans le vieillissement normal, ces difficultés ne devraient pas entraver le quotidien, ne devrait pas empêcher la personne de fonctionner normalement. Et puis il y a d'autres fonctions par contre qui augmentent avec l'âge. Vous savez, par exemple, le langage a tendance à s'améliorer avec l'âge, le vocabulaire augmente. Donc ce n'est pas toutes les fonctions cognitives qui se détériorent naturellement dans le vieillissement physiologique.
Et pour aller encore plus loin dans les symptômes, quand on parle quand même de ce chiffre, un Belge sur 10 qui meurt de démence, moi personnellement, la première question que je me suis posée, c'est: on meurt de quoi? Enfin, on meurt parce qu'on ne sait plus comment rentrer chez nous, on meurt parce qu'on ne mange plus, parce qu'on ne se lave plus. En fait, on meurt de quoi? Je ne sais pas lequel des trois peut répondre à ma question.
C'est une bonne question, parce que la maladie en elle-même n'est pas mortelle directement. Maintenant, il y a tel vieillissement cérébral qu'en réalité, il y a beaucoup de fonctions qui finissent par être altérées. La marche peut être altérée, donc ça peut être simplement les conséquences d'une chute en maison de repos. Parfois, la déglutition est altérée, donc les gens ont des difficultés pour manger, peuvent faire des pneumonies parce qu'ils avalent de travers, ils peuvent aussi simplement se dénutrir avec le temps. Et donc en fait, c'est tout un cortège de complications un peu secondaires à la démence qui entraîne souvent le décès.
Marie Boursy, c'est vrai qu'on parle déjà de l'après, mais qu'est-ce qu'il en est des dépistages aujourd'hui? Est-ce qu'on peut prévenir cette maladie pour ceux qui nous regardent en télévision, qui peut-être s'inquiètent justement de discussion? Comment ça marche en Belgique, par exemple?
Bah, je pense que après tu pourras compléter, mais effectivement, je pense que quand on s'interroge déjà et quand on se pose des questions, il est bien de se faire diagnostiquer pour justement écarter s'il n'y a pas la maladie, et donc se rassurer, parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils ont des oublis, et effectivement, ça peut être aussi un vieillissement normal. Et effectivement, nous, on dit toujours que la première porte d'entrée, c'est d'aller voir son médecin traitant, qui est déjà la première personne qui nous connaît et qui peut orienter et déjà faire un premier bilan de la situation, et ensuite orienter soit vers les cliniques de la mémoire ou vers un neurologue.
Enfin, j'ai une question un peu cash. Pourquoi se faire diagnostiquer? Pourquoi aller voir son médecin, puisque ce sont des maladies incurables?
Alors, c'est assez étonnant. Il y a même eu une... Enfin, voilà. Déjà, je pense que c'est important. Les gens, quand on s'inquiète, vaut mieux savoir
ce qu'on a.
Et
c'est pour apprendre qu'on a Alzheimer. Parfois, il vaut même peut-être mieux pas savoir. Enfin, je sais pas, c'est vous la spécialiste.
Mais on se fait mieux accompagner, déjà. Ouais. Donc, on a une meilleure prise en charge. Il y a effectivement quand même des médicaments, mais ça, on en parlera sûrement après. Et toutes les maladies ne sont pas identiques. Ça peut être Alzheimer comme une autre maladie. Et ça, il est important de savoir de quelle maladie il s'agit.
Mais c'est pour ça effectivement qu'on a de plus en plus même des tests sanguins qui peuvent aider à dépister certaines formes de démence, mais on va jamais le faire sur la population générale, puisque justement de toute façon on peut pas le traiter, donc ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Par contre, dépister la maladie à partir d'un certain âge peut aider la personne malade à partir le mieux possible, en réglant les choses de la vie qu'elle doit régler avant de partir.
Et puis entraîner la mémoire, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi. Est-ce que c'est un mythe qu'on peut entraîner la mémoire quand on apprend qu'on a un défaut comme ça de mémoire?
Ça peut être plus compliqué que ça. On sait qu'en réalité, ce qui est important un peu dans la prévention de ces maladies, c'est ce qu'on appelle la réserve cognitive. Ça veut dire qu'en réalité, plus on fait un peu de réserve de performance un peu cognitive dans sa vie, et plus on peut retarder l'apparition d'une maladie d'Alzheimer, par exemple. Et donc, par exemple, on sait que le fait d'avoir fait des hautes études, d'avoir un travail qui est stimulant, d'avoir beaucoup de relations sociales, on sait que dans cette population-là, la maladie arrive plus tard, voire pas du tout, parce que simplement on compense un peu plus. Et donc ça, c'est plutôt dans notre vie active qu'il faut s'y prêter. Maintenant, une fois que la maladie est là, ça ne sert à rien d'aller forcer des fonctions qui ne sont plus présentes. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un qui est paraplégique d'aller s'entraîner à courir, ça n'a pas de sens. Maintenant, ce qu'on fait en clinique de la mémoire, c'est qu'on aide, notamment dans les stades légers, on aide les personnes à contourner les difficultés et à trouver des stratégies alternatives pour compenser les fonctions qui ne performent plus.
Oui, c'est vrai, parce que toutes ces questions-là, je crois que c'est vraiment les questions que se posent les familles des personnes atteintes. C'est qu'on se demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire face à quelqu'un. Bon, on va parler d'Alzheimer, mais on comprend qu'évidemment, il y a d'autres pathologies, on en reparlera. Voilà, les familles, et ça, vous en parlez très bien, Nicolas Sohi. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette prise en charge, dans ce questionnement des familles?
Bah, c'est beaucoup d'émotions, c'est le fait que les familles vivent toutes une expérience différente face à cette prise en charge et que dans toutes les maladies, l'entourage est évidemment concerné et participe aux décisions importantes et participe à accompagner la personne malade, le proche malade, mais dans le cadre de maladies neurodégénératives, c'est encore pire parce que bien souvent le malade n'est à un certain stade, n'est plus en mesure de prendre lui-même ses décisions. Et donc, toutes les responsabilités se reposent sur les proches. Et ça, c'est quand même très particulier.
C'est ce qu'on découvre dans votre article, Nicolas Sohi. Il me semble que c'est Catherine Hernens qui s'occupe de cette
Absolument.
Partie-là, qu'on remercie évidemment aussi notre collègue. Katharina, il y a quand même un cas dans l'actualité qui a émergé, qui pointe évidemment vers ces maladies, notamment Alzheimer, mais il n'y a pas qu'Alzheimer, Katharina.
Non, et puis c'est aussi un cas qui nous a rappelé que la famille est hyper, hyper présente, vous avez compris. On va parler de Bruce Willis. Donc, on l'a vu, la majorité des cas de démence concernent Alzheimer. C'est le syndrome le plus connu, puisqu'il représente, on le rappelle, 70% des cas. Mais il en existe d'autres. Un cas que l'on évoque souvent, c'est celui de Bruce Willis. L'acteur américain est atteint de démence frontotemporelle, dit DFT. C'est une démence qui, en fait, altère la personnalité, puisqu'elle touche directement des régions du cerveau associées notamment au comportement. On va regarder le sujet, il est signé.
C'est plus grand, c'est mieux que n'importe quelle campagne de sensibilisation qu'on pourrait faire sur la planète entière. Avoir une personnalité, malgré tout, comme Bruce Willis, qui va un petit peu aussi ouvertement montrer son intimité, va aussi montrer les difficultés rencontrées par sa famille. À quel point ça vous touche, ça, vous?
Ouais, moi je trouve qu'effectivement, ça permet de montrer que ça peut arriver à tout le monde, même à des stars, et voilà, c'est encore une maladie où, quand les gens sont concernés, qui fait peur. On cache un peu la maladie, donc il y a un isolement social. Donc le fait que ça existe, qu'on puisse le montrer, qu'on en parle, ben ça dédramatise la situation. Effectivement, c'est compliqué, ça va être difficile, mais si on est soutenu, accompagné, si l'environnement est présent, que ce soit les proches, le voisinage, les commerçants du quartier, ça c'est important pour mieux vivre la maladie et rester le plus longtemps possible chez soi, dans de bonnes conditions. Et donc oui, ce type de témoignage, bah voilà, ça rassure et on se dit, bah oui, on n'est pas tout seul. Et je sais que les familles aiment beaucoup quand il y a des témoignages, soit d'anonymes, mais aussi de stars comme celle-là.
François Meyer, la différence d'une annonce tout aussi dramatique à une personne qui souffrirait d'une autre maladie, quand vous annoncez à un patient qu'il est atteint de démence, c'est plutôt à sa famille que vous l'annoncez, plutôt qu'au patient lui-même?
Ça peut être les deux, parce que souvent, en réalité, on rencontre les personnes à des stades encore modérés.
Dans ce premier stade que vous avez
dit
tout à l'heure.
Oui, et donc là, les personnes au début se rendent quand même assez bien compte. C'est quand même, je dirais, plus de la moitié des cas, c'est le patient lui-même qui vient en consultation parce qu'il s'inquiète. Et puis dans d'autres cas, c'est la famille qui l'amène. Mais donc, oui, c'est une annonce qui se fait doucement, je pense. Mais je pense que c'est important de l'annoncer. Je pense que c'est important de mettre des mots sur ce qui se passe pour un peu lever aussi les tabous. Ça permet aussi d'une certaine façon de me faire un peu le deuil et de pouvoir accepter un peu mieux la situation quand on sait exactement ce qu'on a, que la famille aussi sait ce qui se passe. Mais oui, c'est une annonce qui reste difficile et qui doit se faire progressivement, je pense.
Avec, on imagine aussi certaines consignes pour les guider et tenter évidemment de faire face à cette terrible maladie. Pour terminer quand même sur notre plus positive, Katharina, je me tourne vers vous pour clôturer ce chapitre. Une note d'espoir quand même avec la recherche qui progresse au niveau des traitements, Katharina.
Et là, je vais shipper les mots de Nicolas Sohi puisque c'est une information que l'on trouve dans ce dossier moustique. C'est une victoire, voilà, une victoire dans ce long combat contre la démence. Pour la première fois, un médicament contre Alzheimer est mis à disposition des malades sur le marché occidental. On parle du premier médicament capable de ralentir, attention, la neurodégénérescence, et c'est aux États-Unis qu'il vient d'être approuvé. En Europe, il est toujours à l'examen. Ce médicament, il a un nom, le lecanemab. Il donne de l'espoir à de nombreuses familles, même si, on le rappelle, il ne soigne pas la démence, mais il ralentit tout de même son développement. Ce qu'on découvre dans le dossier de Moustique, c'est qu'en fait, derrière un médicament qui est validé, qui est avalisé, traiter. C'est vraiment toute une série de recherches que l'on expose. Et là, on espère, grâce à vous, Nicolas, que ces recherches, elles vont mener à d'autres médicaments, puisque ce qu'on comprend, c'est qu'aujourd'hui, la recherche, elle est hyper, hyper active pour précisément faire face aujourd'hui à la démence.
Elle est importante, d'autant que ce médicament n'est pas du tout miraculeux. Il y a beaucoup d'effets secondaires importants aussi qui sont à s'y greffer. Mais même en Belgique, ça c'est important aussi, on le pointe dans Moustique, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les universités, notamment à Liège, notamment à l'UC Louvain. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Et on espère, ce ne sera pas demain certainement, mais on espère que dans plusieurs années, eh bien, effectivement, toutes ces recherches, toutes ces découvertes vont déboucher sur des traitements.
Et des cas de démence sont détectés chez des personnes de plus en plus jeunes, comment ça se fait?
Je pense que parce qu'on est plus sensible au diagnostic, qu'on diagnostique mieux, les outils diagnostiques ont vraiment, sont vraiment améliorés dans les dernières années, on est plus attentif à ça et on a des techniques auxquelles on n'avait pas accès par le passé.
François Meyer, il y a quand même quelque chose dans l'article de Nicolas Sohi, il y a un lien qui n'est pas si évident que ça, on prend pas trop, on va faire attention, mais avec notamment la prise d'antidépresseurs. Est-ce que ça, c'est connu dans le monde médical? On parle aussi notamment de la pollution qui pourrait impacter.
Oui, c'est des choses qui sont difficiles à démontrer. Maintenant, il n'y a pas d'antidépresseur, à ma connaissance, qui ait montré vraiment un risque d'Alzheimer. On a beaucoup incriminé aussi les benzodiazépines, genre médicament qu'on prend comme somnifère, par exemple. Mais pareil, on n'a jamais eu de preuves définitives que ça pouvait augmenter le risque. Et au contraire, on prescrit même souvent des antidépresseurs chez les personnes souffrant de démence, parce qu'il y a souvent une dépression, parce que ça peut améliorer aussi l'humeur, le comportement. Donc, c'est des médicaments qu'on peut utiliser prudemment et dans.
Ce sont vraiment certaines enquêtes, et d'ailleurs même dans l'article on les cite avec énormément de prudence.
À ce stade, il ne faut pas conclure qu'un lien existe.
Les chercheurs d'une étude américaine notamment disent ils constatent simplement qu'effectivement parmi les sujets qui ont été étudiés, c'est un échantillon évidemment assez réduit, ils font le constat que dans l'année précédente, la moitié à peu près était sous antidépresseurs, dans ceux qui ont contracté une forme de démence. Mais donc effectivement, tout ça est très prudent, pareil avec la pollution. Il y a des études qui commencent peut-être à établir un lien, mais on n'est pas du tout au point de conclure un lien entre ces facteurs-là.
En tout cas, c'est très clair là-dedans, dans Moustique. Peut-être un dernier mot avec vous, Marie Boursy. On a pu lire aussi qu'au niveau politique, ça avait du mal à bouger, que justement la Ligue Alzheimer réclame un plan national, qu'au niveau régional, ça existait, mais que la mise en œuvre, je vois votre visage, c'était pas encore ce qu'il fallait. Qu'est-ce que ça nous dit que finalement le politique ne se préoccupe pas de ce sujet-là, fondamentalement?
Effectivement, nous, notre association, il y a 3 ans, on a demandé aussi à ce qu'il y ait une stratégie nationale pour une meilleure complémentarité, une meilleure coordination de toutes les actions autour de la maladie d'Alzheimer et aussi des actions de sensibilisation, d'information. C'est le minimum que l'on devrait faire en Belgique. C'est quand même une préconisation aussi de l'Organisation mondiale de la santé d'en faire une priorité de santé publique. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait bien que ça bouge. Nous, on vient de perdre un subside concernant la sensibilisation et la promotion de la santé à Bruxelles. Donc, effectivement, les choses ne vont pas forcément dans le sens de l'évolution de cette maladie qui, finalement, touche de plus en plus de monde. Donc, voilà, les politiques, effectivement, il faudrait maintenant qu'ils prennent les choses au sérieux et qu'ils puissent soutenir toutes les initiatives des associations ou des initiatives privées qui existent, parce qu'il y en a, mais ça ne suffira pas.
Il y en a.